Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. La Première ministre a affirmé que la République démocratique du Congo est un pays solution pour l'avenir, notamment en matière de sécurité hydrique. Elle l'a dit hier lors de la conférence internationale Water Forward à New York. Elle a rappelé que la RDC concentre plus de 50% des réserves d'eau douce du continent africain, un atout stratégique majeur. Dans ce journal, cette alerte au sud Kivu, les habitants de Ninja dans Kabare traversent une situation socio-économique difficile. En cause, l'insécurité persistante sur la route principale qui relie leur contrée à la ville de Bukavu. Si rien n'est fait pour décanter la situation, une crise alimentaire est en vue, alerte le mouvement jeunesse actif pour le développement de Ninja. Avec notre invité, le professeur Emmanuel Mukundi, enseignant d'économie à l'université de Kinshasa et député national, nous reviendrons sur la toute première émission d'Eurobond du pays baptisée Mbote. Cette opération a permis de lever 1,25 milliard de dollars sur les marchés internationaux selon le ministre de Finances. Mais que sont exactement les Eurobonds et à quoi servent-ils exactement? Réponse avec notre invité. Bienvenue à cette édition d'information. La Première ministre Judith Suminwa a mis en avant le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans les équilibres futurs liés à l'eau, à l'énergie et au développement à travers le monde. Elle a dit hier mercredi à New York, aux États-Unis, à la conférence Water Forward, Driving Jobs and Opportunities. Il s'agit d'une initiative mondiale visant à renforcer la sécurité hydrique et à faire de l'eau un levier de croissance économique et de création d'emplois. Cette rencontre s'est tenue en marge des réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Parler de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de développement, c'est parler d'avenir du monde que nous construisons, a-t-elle déclaré. On écoute Judith Suminwa dans cet extrait proposé par Alain Rung.
La République démocratique du Congo est au cœur de cette trajectoire. Avec plus de 50% des réserves d'eau douce de l'Afrique, notre pays détient une part de la réponse aux grands équilibres de demain. Car l'eau conditionne la santé, la sécurité alimentaire, la prospérité et la croissance économique. Notre responsabilité est claire, transformer ce potentiel en progrès tangible. À travers le pacte présidentiel pour l'eau, nous visons 60% d'accès à l'eau potable d'ici 2035, avec un programme structurant de 20 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais cela représente des millions d'emplois, des villes plus productives et des économies locales transformées. Les résultats sont déjà en marche. À titre illustratif, le projet intégrateur Kinelenda à Kinshasa permet d'améliorer l'accès à l'eau avec un impact direct sur la santé, la dignité et la productivité qui touche près de 3 millions de personnes sur Kinshasa. Notre ambition est systémique car l'eau et l'énergie dessinent ensemble des économies de demain.
Nous parlons de l'eau aussi dans la province du Olomami, mais là, ce sont plutôt ces dégâts liés aux inondations signalés dans les territoires de Malembankoulo depuis la fin du mois de mars. Dans une déclaration hier jeudi à Radio Okapi, le coordonnateur provincial de la société civile Force Vive de Malembankoulo indique que plusieurs habitations, écoles, églises, champs et plantations sont inondées par les eaux du fleuve Congo et d'autres rivières. Face à cette situation, Claude Kiasangolo demande aux autorités d'assister les sinistrés. Ces propos sont recueillis par Paula Munanga.
La coordination territoriale de la société civile Force Vive de Malembankoulo s'est dit choquée par la situation d'inondation qui frappe son territoire. Et ceci est dit aux eaux du fleuve Congo et d'autres rivières qui déversent ces eaux dans les deux fleuves. À Malemba Centre, les eaux sont allées au-delà d'un 1 km de son lit habituel, laissant plusieurs habitations, écoles et églises englouties par ces eaux. À Kabala, chez Feridenkoulou, les eaux des mêmes fleuves sont allées au-delà de 900 mètres de son lit, obligeant la population à fuir leur habitation. À Kayumba, groupement de Mondoué, les champs et plantations tension de canne à sucre sont rasés par les eaux de la rivière Lufira. Tandis qu'à Mouseka, c'est la rivière Kalumengongo qui détruit les champs des agriculteurs. L'administrateur de territoire n'ayant pas affaire à son niveau, visite les sinistrés en leur demandant de garder courage. C'est pourquoi nous demandons Son Excellence Madame la Première Ministre, chef de gouvernement, à Son Excellence Monsieur le Gouverneur, ainsi que tout son gouvernement provincial à se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés, car nous traversons une période sensible aux maladies hydriques.
La ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola, a annoncé mardi la publication dans le courant de la semaine de la nouvelle structure des prix des produits et pétroliers. Cette déclaration a été faite lors de la réunion du comité professionnel des importateurs, organe technique chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers en République démocratique du Congo. De leur côté, les importateurs ont rassuré que la RDC ne court aucun risque de rupture de stock malgré la guerre au Moyen-Orient entre la coalition israélo-américaine et l'Iran. Un représentant des importateurs a confirmé que les stocks disponibles et les mécanismes d'approvisionnement mis en place permettent de garantir la continuité de la distribution sur le territoire national. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Ronk.
Donc c'est pour rassurer la population que nous continuons à approvisionner le pays en produits pétroliers. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a eu l'assurance que on pourra revoir la structure de prix pour tenir compte de la situation actuelle.
Il y a déjà près de 3 semaines, en demandant qu'on revoie un peu la structure des prix pour que le PMF soit confortable au niveau des sociétés commerciales.
En tant qu'importateur de produits raffinés, cela nous rassure dans la continuité de nos exercices. Cela rassure également dans l'ensemble des opérations.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont évolué à pas de géant ces dernières années. Aujourd'hui, presque tout le monde, y compris des enfants et des personnes vulnérables, dispose d'un téléphone portable, un outil qui, il faut le dire, facilite les échanges, réduit les coûts et rapproche les gens et les peuples. C'est une réalité bien différente il y a une quinzaine d'années où les moyens de communication restaient rudimentaires et souvent inefficaces. Christelle Aichi nous retrace le chemin parcouru pour en arriver là.
Il y a une quinzaine d'années, communiquer avec un membre de sa famille éloignée relevait du parcours du combattant. La plupart des habitants recouraient à la phonie. Les opérateurs devaient alors rechercher l'adresse physique du destinataire et fixer un rendez-vous pour transmettre les messages. Et processus long qui pouvait prendre plusieurs jours, voire des semaines ou des mois. En cas d'urgence, comme une maladie ou un décès, il était presque impossible d'informer rapidement les proches. Étudiants, agents de l'État, commerçants, tous étaient confrontés à ces difficultés de communication. Ale Manguilio témoigne.
Lorsqu'on cherche votre correspondant, on ne le trouve pas. On passe sur une autre personne. C'est comme ça que l'affaire se faisait jusqu'à ce qu'on trouve votre correspondant. C'était ça le problème. En tout cas, le téléphone a beaucoup facilité.
Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, téléphone portable, internet, courriel, il est désormais possible de communiquer facilement, quel que soit l'endroit, à tout moment et à moindre coût. Charité Moulihia.
Actuellement, c'est juste un clic d'œil, vous communiquez partout dans le monde. On n'est pas obligé de se voir physiquement, mais on est dans son coin, on peut communiquer partout dans le monde.
Cependant, certaines zones restent encore enclavées, faute de couverture par des différents réseaux.
Votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez rappeler plus tard.
Bounia, Christelle Aichi, Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, la chefferie des ninjas en territoire de Kabare traverse une situation socio-économique difficile. En cause, l'insécurité persistante sur l'axe routier principal reliant cette entité coutumière à la ville de Bukavu. Le mouvement Jeunesse Active pour le développement de ninjas alerte sur les conséquences graves qui pourraient découler du blocage de cette voie d'approvisionnement. Selon son coordinateur, Bienfait Isina, si les partis en conflit continuent à siéger le tronçon ninja Bugobe, la population locale risque de se retrouver dans une crise humanitaire. On écoute Bienfait Isina au micro de Jean Kassami.
Après une analyse de la situation vécue par la population de certains groupements du territoire de Kabare, notamment Ihembe en chefferie de Ninja et Bugobe en chefferie de Kabare, nous constatons que l'insécurité observée dans la zone perturbe fortement les voies socio-économiques de la population. L'axe Ninja Ihembe Bitara Mulume Munene Bugobe Chirunga constitue une voie importante de ravitaillement permettant à la population de se procurer des produits de première nécessité. La dégradation de la sécurité dans cette zone limite aujourd'hui la circulation de personnes et le bien. En tant qu'organisation humanitaire agissant dans le respect des principes de neutralité, impartialité, indépendance, nous demandons aux autorités et aux partis concernés de prendre des mesures pour rétablir la sécurité et faciliter la libre circulation. Notre souhait est de voir la paix, la sécurité et les activités socio-économiques reprendre normalement au bénéfice de toute la population qui en a souffert déjà plus de 3 mois.
Il est clôturé hier mercredi à Beni au Nord Kivu de la première phase de la formation aux activités génératrices de revenus dans un contexte de conflit. Les bénéficiaires sont des femmes vulnérables déplacées et retournées. Au total, 75 femmes, en majorité des déplacées venues de plusieurs zones du Nord Kivu, ont pris part à cette formation. Organisée par la section du genre de la MONUSCO au Beni, cette initiative vise à renforcer l'autonomisation économique de ces femmes et à améliorer leurs conditions socio-économiques. Marc Maroufimbo pour d'autres précisions.
La formation a porté sur plusieurs domaines, notamment la coupe et couture, la cosmétique, les maraîchages, les petits commerces ainsi que l'éducation à la gestion financière. Parmi les bénéficiaires, Benita Rumu, déplacée en provenance de Goma, s'est dit satisfaite des connaissances acquises.
Je me suis déplacée de Goma depuis le mois de juin dernier et je vis à Beni avec une petite activité des restaurants mais avec un petit capital. Avec cette formation, je vais bien progresser avec mon travail et je vais épargner pour stabiliser financièrement ma famille.
Autre bénéficiaire, Cécile Kaindo Kanyasi, une femme vivant avec handicap. Pour elle, cette formation représente une opportunité de stabilisation économique et d'épargne. Elle souligne que l'handicap n'est ni synonyme de pauvreté, ni une fatalité, mais une condition physique qui peut être valorisée pour subvenir à ses besoins.
Avec cette formation, j'ai reçu une nouvelle éducation financière d'épargne et à rehausser mes affaires. Le handicap n'est pas synonyme de la pauvreté. Tant qu'on respire, on vit, seulement son courage. Le handicap est une richesse.
L'Association des femmes pour la nutrition à assise communautaire AFNAC, chargée de l'encadrement de cette formation, indique que la distribution des kits aux bénéficiaires, notamment des machines à coudre, interviendra dans les prochains jours. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Dans l'enseignement, à l'approche des épreuves hors session de l'examen d'État, l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, la sous-division Kasaï Central 1, interdit l'organisation des maquis, ces bureaux de retraite observés par des élèves finalistes du secondaire pour des études intensives. La décision est contenue dans une correspondance officielle du 10 avril adressée au chef d'établissement scolaire. Mais le mouvement citoyen Filimbi rappelle que chaque année, cette mesure est prise sans être réellement appliquée. Il appelle les autorités éducatives vont en assurer le respect cette fois-ci. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
Dans sa correspondance, l'inspecteur principal provincial à l'intérim de l'éducation nationale souligne que les maquis ne sont pas reconnus par la loi cadre de l'enseignement. Bossien Kamana estime que cette pratique favorise notamment la dépravation de mœurs chez les élèves finalistes. Il en interdit l'organisation aussi bien dans des écoles qu'en dehors. Réagissant à cette décision, le mouvement citoyen Filimbi salue une mesure salutaire. Toutefois, il les déplore son non-respect récurrent. Son coordonnateur provincial, André Moujani, appelle à des actions concrètes pour faire appliquer cette interdiction.
L'IPP doit travailler en collaboration avec la police nationale congolaise et l'ANR pour suivre cet aspect-là des maquis. Parce que le préfet, lui, il peut passer un message dans la salle, mais à 12h, soit à 17h, il rentre chez lui. Les apprenants seront obligés d'aller là où ils sont en train de louer leur maison.
À savoir que l'inspection provinciale a déjà mis en garde les chefs d'établissement contre toute violation de cette mesure. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
À Kinshasa, faire piler des feuilles de manioc communément appelées pondou à l'aide de machines motorisées est une pratique courante chez les femmes. Dans plusieurs marchés de la capitale, cette méthode remplace progressivement le mortier et le pilon traditionnel. Mais si ces machines séduisent par leur rapidité, elles soulèvent néanmoins une question essentielle, celle de l'hygiène. Le point avec Séphorin Paka.
Au marché rail de Lingwala, les bruits de moteur ne s'arrêtent pas. Les femmes arrivent tour à tour avec leurs feuilles de manioc, confiées à de jeunes travailleurs qui proposent le broyage à l'aide de machines, généralement composées d'un mortier ou d'un seau muni d'une hélice. Ces machines réduisent en miettes le pondou en quelques minutes seulement, offrant une texture adaptée au goût de la clientèle. Un jeune travailleur explique.
Piler les pondous dans les mortiers, c'est du retard. Avec la machine, c'est rapide, surtout lorsque les gens ont faim. Nous recevons les clientes de 6h à 18h. Nos mesures varient entre 1000 et 1500 francs.
Mais derrière cette efficacité, une inquiétude demeure. Maman Mireille, femme au foyer.
Je pile mon pondou dans le mortier car leurs machines ne sont pas toujours bien nettoyées. Les femmes doivent être fortes. Savoir piler les feuilles de manioc comme elles font les autres travaux ménagers, nettoyer les habits ou bien puiser de l'eau. Tout est question de volonté.
Pour sa part, Dr Diorsi Lubata attire l'attention de consommateurs, car les risques de contamination sont réels.
Les conditions dans lesquelles ces machines sont utilisées peuvent exposer la population à des risques sanitaires non négligeables. Ces machines ne sont pas correctement nettoyées entre des utilisations. Elles peuvent donc contenir des résidus d'aliments, des microbes, voire des agents pathogènes. Cette situation favorise ce que nous appelons en médecine une contamination croisée.
Entre tradition et progrès, le Pondou continue de gagner du terrain.
Actualité internationale.
Le Soudan est entré mercredi dans la quatrième année d'une guerre qualifiée de crise abandonnée, alors qu'un nouveau conflit au Moyen-Orient relègue dans l'ombre les combats qui ont contraint 13 millions de personnes à fuir leur foyer. Selon africanews.fr, ce pays d'Afrique du Nord est considéré comme le plus grand défi humanitaire au monde, notamment en termes de déplacement des populations et des famines. On ne voit pas de fin au combat entre l'armée et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide RSF, qui selon des témoins et des organisations humanitaires ont ravagé certaines parties de la vaste région du Darfour. Des dizaines de citoyens soudanais vivant au Kenya ont organisé hier une opération de plantation d'arbres aux côtés d'organisations de défense des droits humains basées à Nairobi, qui ont appelé à la fin de la guerre alors qu'elle entre dans sa quatrième année.
L'invité.
La République démocratique du Congo vient de franchir une étape historique dans sa trajectoire économique. Lors d'une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Famba, a présenté les contours de la toute première émission d'eurobonds du pays, baptisée Mbote. Cette opération a permis de lever 1,25 milliard de dollars américains sur les marchés internationaux. Mais que sont exactement les eurobonds et à quoi peuvent-ils servir? Réponse dans cet entretien que le professeur Emmanuel Mukundi, enseignant d'économie à l'Université de Kinshasa, député national, a accordé à Alain Rung.
Professeur Emmanuel Mukundi, bonjour. La RDC a réussi une entrée historique sur les marchés internationaux avec 1,25 milliard de dollars de rebonds. C'est quoi les eurobonds en termes simples?
Monsieur le journaliste, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. L'eurobond, c'est quoi? Un document, de manière simple, qui matérialise une créance à long terme. C'est-à-dire, c'est un document de reconnaissance d'une dette. Par exemple, l'État congolais a besoin de construire ses routes, mais que son trésor ne lui permet pas d'avoir le moyen long pour construire ses routes. L'État congolais peut emprunter au privé un montant quelconque pour une durée de remboursement de 10 ans, par exemple. Or, l'acte de reconnaissance de cette dette, dans le terme technique sur le marché financier, on l'appelle obligation. L'eurobond, ce sont des obligations qui sont émises par des États sur le marché européen. Le cas échéant, la République démocratique du Congo s'est endettée sur le marché européen. Donc, vous constaterez que la République démocratique du Congo s'est endettée sur le marché européen, mais la dette est libellée en monnaie américaine. Une monnaie qui n'est pas une monnaie congolaise. Si la dette était émise en franc congolais, on ne pouvait pas appeler ça eurobond, même si c'était fait par exemple, en Europe. Nous l'appelons Eurobond parce que la RDC, c'est un pays qui n'est pas européen, mais qui a émis une dette, une obligation sur le marché européen.
À quoi pourrait servir ces 1,25 milliards d'eurobonds?
C'est une dette, ça il faut reconnaître. C'est-à-dire, nous ajoutons la dette. Quel est l'inconvénient de la dette? La dette, si elle n'est pas utilisée pour les investissements qui permettraient d'être rentables et de créer des ressources excédentes, en fait, de rembourser. Cette dette-là, c'est une charge pour les générations futures. Vous et moi, journalistes, nous avons subi et nous continuons à subir la dette de 14 milliards contractée par le gouvernement de la Deuxième République. La dette, elle est bonne, mais elle n'est bonne que lorsque elle permet d'être investie dans le secteur rentable qui permettrait de dégager les ressources afin d'abord d'investir au pays, de construire au pays, par exemple, 1 milliard tel que contracté là, 1,25 milliard, on peut construire des routes, on peut construire des sources hydroélectriques, on peut construire des ponts, on peut construire des aéroports, on peut construire des infrastructures. Si on construit les infrastructures dans les secteurs porteurs, là, la dette elle-même va se payer parce que l'État va enregistrer des ressources supplémentaires, des ressources excédentaires qui lui permettraient de payer des dettes 10, 15 ans après. Mais si l'on consomme, comme on a l'habitude de le faire chez nous au pays, c'est une charge que les générations futures porteraient.
Pour terminer, professeur, quel conseil donneriez-vous au gouvernement congolais en tant qu'économiste pour un usage efficient de cet argent?
D'abord, la première des choses, en ce qui concerne les conseils, le gouvernement devait nous dire, nous, la population, quel est le taux de remboursement. Parce que si c'est à des taux exorbitants, comme je vous ai dit, rembourser les intérêts, le principal est les intérêts, ça serait un problème pour la nation congolaise. Mais je voulais ajouter que aujourd'hui, au niveau du Parlement, ça c'est une information, au niveau du Parlement, nous sommes en train de travailler sur la loi, avec effectivement c'est un projet qui nous vient du gouvernement, la loi sur le marché financier, je peux dire le marché financier de manière générale, et cette loi permettrait au gouvernement congolais non seulement de recourir à l'épargne étrangère, mais également de recourir à l'épargne nationale, parce qu'au moins l'État aura la possibilité d'emprunter sur le marché congolais. Il n'a pas cette possibilité tout simplement parce que l'État s'arrête au bon du trésor, qui est un autre document d'emprunt à court terme, et avec convention seulement avec les banques. Mais en créant le marché financier, l'espace sera grand pour la République démocratique du Congo ou l'État congolais, et même le gouvernement provincial, d'avoir un cadre où ils peuvent facilement lever les fonds partant de l'épargne nationale pour les investissements publics d'intérêt commun.
Professeur Emmanuel Mukundi, je vous remercie.
Professeur Emmanuel Mukundi, enseignant d'économie à l'Université de Kinshasa, également député national. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Rong et Élisée Chikota Chivuita avec Babel Pongo Massimango au micro et Pierre Diassino à côté technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bon après-midi.